Chapitre 9. C'était le matin. Le soleil émergeait à peine au-dessus des arbres et j'étais dans le jardin, occupée à cueillir des anémones pour égayer ma table. Les cochons reniflaient dans leurs auges. L'un des sangliers devint hargneux, poussant les autres et grognant pour affirmer son autorité. Je croisai son regard. « Hier, je t'ai vu faire des bulles dans le ruisseau et la veille, la truite achetée t'a envoyé paître avec rien de plus qu'une morsure à l'oreille. Alors tiens-toi un peu tranquille. » Il souffla dans la terre boueuse avant de s'affaler sur le ventre, calmé. « Tu parles toujours aux cochons en mon absence ?» Hermès se tenait devant moi dans sa cape de voyage, son chapeau à large bord incliné sur ses yeux. « J'aime mieux penser que c'est l'inverse, » lui répondis-je. Qu'est-ce qui t'amène à l'honnête lumière du jour? Un navire arrive. Je me suis dit que tu aimerais peut-être être prévenu. Je me levai. Ici? Quel navire? Il sourit. Il adorait me voir désemparé. Qu'est-ce que tu me donnes si je te le dis? Hors d'ici! Je te préfère dans le noir. Il eut un petit rire et disparut. J'eus beau m'efforcer de vaquer à mes occupations matinales comme si de rien n'était, au cas où Hermès m'épirait, je sentais en moi une tension, une anticipation crispée. Je ne pouvais pas empêcher mon regard de revenir vers l'horizon. Un navire transportant des visiteurs qui amusaient Hermès. Mais qui ? Le vaisseau arriva en milieu d'après-midi, son reflet se réverbérant sur le miroir éclatant des vagues. Il avait 10 fois la taille de l'esquive de Glaucos, et même à distance, je pouvais voir à quel point il était splendide, élégant et peint de couleurs vives, avec une énorme proue dressée. Il avançait rapidement dans l'air alangui, grâce à la cadence régulière de ses rameurs. Tandis qu'ils approchaient, je sentis ma gorge se contracter de ce vieil enthousiasme familier. Des mortels. Les marins jetèrent l'ancre, et un homme seul sauta par-dessus le côté bas du bateau pour patauger vers la grève. Il suivit la démarcation entre la plage et les bois jusqu'à ce qu'il trouve le petit sentier tracé par les cochons, serpentant vers le haut à travers les branches d'acanthe, les bosquets de lauriers et devant le fourré d'aubépine. Je le perdis de vue à cet endroit-là, mais je savais où conduisait le chemin. Bien qu'il ait marqué un temps d'arrêt en voyant ma lionne, cela ne dura pas. Les épaules droites et fières, il s'agenouilla devant moi sur l'herbe de la clairière. Il était plus vieux. La peau de son visage était plus ridée et pourtant c'était le même homme, avec son crâne rasé et ses yeux clairs. De tous les mortels sur terre, rares sont ceux dont les dieux entendent jamais parler. Il faut considérer l'aspect pratique. Le temps que nous apprenions leur nom, ils sont déjà morts. Il faut qu'ils soient des météores pour retenir notre attention. Vous qui êtes simplement bons, pour nous, vous n'êtes que poussière. Madame, commença-t-il, je suis désolé de te déranger. Tu ne m'as pas encore dérangé pour l'instant. Tu peux te remettre debout si tu le souhaites. S'il avait remarqué ma voix de mortel, il n'en donna aucun signe. Il se leva. Je ne peux pas parler de grâce car il était trop robustement bâti pour cela, mais avec la même aisance qu'une porte qui se referme sur des gonds bien huilés. Son regard croisa le mien sans dévier. Il est habitué aux dieux, pensais-je, et aussi aux sorcières. Qu'est-ce qui amène le célèbre Dédale sur mon rivage? Je suis honoré que tu me reconnaisses. Sa voix était aussi calme qu'un vent d'ouest, chaude et constante. Je suis ici en tant que messager de ta sœur. Elle attend un enfant et la date approche. Elle te demande de t'occuper de sa délivrance. Je le toisai. Es-tu sûr d'être venu au bon endroit, messager? Il n'y a jamais eu d'amour entre ma sœur et moi. Ce n'est pas au nom de l'amour qu'elle te fait venir. La brise soufflait, chargé du parfum des fleurs des tilleuls, et en arrière-plan, de la puanteur boueuse des cochons. On m'a dit que ma sœur avait déjà engendré une demi-douzaine d'enfants, chacun plus facilement que le précédent. Elle ne peut pas mourir en couche, et ses nourrissons prospèrent grâce à la force de son sang. Alors pourquoi a-t-elle besoin de moi ? Il écarta évasivement ses mains, qui avait l'air habile et épaissi par les muscles. « Pardonne-moi, madame. Je ne peux pas en révéler davantage, mais elle m'a chargée de te dire que si tu ne l'aides pas, personne d'autre ne le pourra. C'est ton art qu'elle requiert, madame, ton art à toi seule. » Pasiphaé avait donc entendu parler de mes pouvoirs et décidé qu'ils pourraient lui être utiles. C'était le premier compliment qu'elle me faisait de toute ma vie. Ta sœur m'a également demandé de préciser qu'elle a obtenu de ton père la permission pour que tu voyages. Ton exil est suspendu pour cette occasion. Je fronçai les sourcils. Tout cela était étrange, très étrange. Qu'est-ce qui était suffisamment important pour la forcer à aller trouver mon père? Et si elle avait besoin de davantage de magie, pourquoi ne pas envoyer chercher Persès? On aurait dit une sorte de ruse, à ceci près que je ne comprenais pas pourquoi ma sœur prendrait cette peine. Je ne représentais pas une menace pour elle. J'étais tentée. Bien sûr, j'étais curieuse, mais cela allait plus loin. C'était l'occasion de lui montrer ce que j'étais devenue. Quel que soit le piège qu'elle pourrait me tendre, elle ne m'y prendrait pas, plus maintenant. Quel soulagement d'apprendre ce sursis! Je meurs d'envie d'être libérée de ma terrible prison. Autour de nous, les collines en terrasse rayonnaient d'un éclat printanier. Il ne sourit pas. Il y a autre chose. Ta sœur m'a aussi chargée de t'informer que notre route passe par le détroit. Quel détroit? Cependant, je lus la réponse sur ses traits. Ses cernes sombres sous ses yeux, cet air de chagrin là. La nausée monta dans ma gorge. L'endroit où réside-t-il là? Il acquiesça. Pasiphaé vous a ordonné de venir par là aussi? Oui. Combien en avez-vous perdu? 12. Nous n'avons pas été assez rapides. Comment avais-je pu oublier qui était ma sœur? Jamais elle ne se contenterait de demander une faveur. Il fallait toujours qu'elle agite un fouet pour vous obliger à vous plier à sa volonté. Je la voyais très bien se vanter auprès de Minos en riant. J'ai entendu dire que Circé avait un faible pour les mortels. Je la haïssais plus que jamais. Son plan était d'une telle cruauté. Je considérais l'idée de rentrer chez moi comme une furie en claquant la porte sur ses gigantesques gonds. Dommage, Pasiphaé, tu vas devoir trouver une autre dupe. Mais alors, 6 ou 12 hommes de plus mourraient. Je me moquais intérieurement de ma prétention. Qui pouvait dire qu'ils vivraient si je venais? Je ne connaissais pas de sort susceptible de faire fuir les monstres, sans compter que Scylla serait folle de rage à ma vue. Je ne ferais qu'attirer davantage ses foudres sur eux. Dédale me fixait, le visage baigné d'ombre. Loin derrière son épaule, le char de mon père glissait dans la mer. Dans les pièces poussiéreuses de leur palais, les astronomes suivaient en ce moment même la gloire de son coucher en espérant que leurs calculs tiendraient la route. Leurs genoux osseux s'entrechoquaient à la pensée de la hache du bourreau. Je rassemblai mes vêtements, ma sacoche de simple. Je refermai la porte derrière moi. Il n'y avait rien d'autre à faire, personne à prévenir. La lionne saurait se débrouiller. « Je suis prête, » annonçai-je. Le style du navire était nouveau pour moi, raffiné et bas sur l'eau. Sa coque était joliment peinte de vagues et de dauphins incurvés, et près de la poupe, un poulpe étendait ses tentacules sinueux. Tandis que le capitaine enroulait la chaîne de l'ancre, je m'approchai de la proue pour observer la statue que j'y avais remarquée. C'était une jeune fille en robe de danse. Son expression était empreinte d'une surprise heureuse, yeux élargis, lèvres entrouvertes, cheveux détachés sur les épaules. Elle se tenait sur la pointe des pieds, comme si la musique allait commencer, ses petites mains serrées sur son cœur. Chaque détail de la sculpture, les boucles de ses cheveux, les plis de sa robe, était si réaliste qu'elle paraissait prête à s'élancer dans les airs d'une minute à l'autre. Pourtant, le véritable miracle n'était pas là. Cet art révélait, je ne saurais dire comment, un aperçu de l'être de cette jeune fille, l'intelligence inquisitrice de son regard, la grâce déterminée de son front, son excitation et son innocence tranquille et fraîche comme l'herbe verte. Je n'eus pas besoin de demander quelle main l'avait façonné. Mon frère avait qualifié Dédale de merveille du monde mortel, mais cette sculpture constituait une merveille dans tous les mondes. Je contemplais longuement les plaisirs qu'elle offrait, en découvrant un nouveau à chaque minute. La petite fossette de son menton, l'os de sa cheville, folâtre de jeunesse. C'était une merveille, mais aussi un message. Moi qui avais été élevée accroupie aux pieds de mon père, je reconnaissais un étalage de pouvoir au premier coup d'œil. En possession de ce trésor, un autre roi l'aurait enfermé sous bonne garde dans la salle la mieux protégée de son palais. Or, Minos et Pasiphaé l'avaient accroché sur un bateau, exposé aux embruns et au soleil, aux pirates, aux varecs et aux monstres, comme pour déclarer « C'est une bagatelle, nous en possédons un millier de plus, et mieux encore, nous détenons l'homme qui les fabrique. » Le roulement des tambours me ramena à la réalité. Les marins s'étaient installés sur les bancs, et je sentis les premières secousses du départ. Les falaises du port s'éloignèrent, glissant devant nous. Mon île se mit à rapetisser. Je dirigeai mon attention vers les hommes rassemblés sur le pont. Ils étaient 38 en tout. 5 gardes en cape et armure dorée arpentaient la poupe. Leur nez était déformé, tordu d'avoir été trop souvent cassé. Je me souvins qu'Aétès s'était moqué d'eux, les voyous de Minos déguisés en princes. Les rameurs étaient l'élite de la puissante marine de Knossos, si imposant que leurs rames paraissaient délicates entre leurs mains. Autour d'eux, les autres marins s'affairaient, montant un dais pour se protéger du soleil. Au mariage de Minos et Pasiphaé, les mortels étaient réduits à une masse distante et floue, tout aussi semblable que les feuilles d'un arbre. Mais là, sous le ciel, chacun était implacablement différent. Celui-ci était épais, celui-là imberbe, un autre barbu avec un nez busqué et un menton étroit. Ils avaient des cicatrices, des cales et des éraflures, des rides et des épis dans les cheveux. L'un d'eux avait enroulé un linge humide autour de son cou pour combattre la chaleur. Un autre portait un bracelet fabriqué par des mains enfantines, et la forme de la tête d'un troisième rappelait celle d'un bouvreuil. J'eus le tournis en me rendant compte qu'il ne représentait qu'une fraction d'une fraction de tous les hommes que le monde avait engendrés. Comment une telle variété, une telle itération sans fin d'esprit, de visages et de cœurs, pouvait-elle perdurer ? La terre n'en perdait-elle pas la raison ? Puis-je t'apporter un siège ? Proposa Dédale. Je me retournai, soulagé de me retrouver face à un seul de ces hommes. Si l'on ne pouvait pas dire que Dédale était beau, ses traits avaient une robustesse plaisante. « Je préfère rester debout, » répondis-je. Je désignai la proue d'un geste. « Elle est magnifique. » Il inclina la tête comme un homme habitué à ce genre de compliment. « Merci. » « Dis-moi, pourquoi ma sœur te fait-elle surveiller ?» Lorsque nous étions montés à bord, le plus massif des gardes, le chef, l'avait fouillé sans ménagement. Ah ! Il eut un léger sourire. Minos et Pasiphaé craignent que je n'apprécie pas complètement leur hospitalité. Je me souvins d'Aétès disant « Pasiphaé l'a piégé. » Tu aurais sûrement pu leur échapper pendant le voyage ? Les occasions ne manquent pas. Malheureusement, Pasiphaé détient quelque chose qui m'appartient et que je refuse d'abandonner. J'attendis d'autres explications, en vain. Il avait posé les mains sur le bastingage. Leurs articulations étaient abîmées, leurs doigts hachurés d'entailles et de cicatrices blanches. On aurait dit qu'il les avait plongés dans du bois brisé ou des morceaux de verre cassés. Dans le détroit, tu as vu Scylla ? Pas clairement. La falaise est envahie de fumée et de brume, et elle bougeait trop vite. Elle a 6 têtes, qui ont frappé 2 fois. Avec des crocs longs comme une jambe. J'avais vu les taches sur le pont. On avait beau l'avoir nettoyé, le sang s'était profondément incrusté. C'était tout ce qui restait de ces 12 vies. Mon estomac se tordit de culpabilité, comme Pasiphaé l'avait voulu. Il faut que tu saches que c'est moi la fautive. C'est moi qui ai transformé Scylla en ce qu'elle est. C'est pour cette raison que je suis exilée et que ma sœur t'a fait emprunter cette route. Je scrutai son visage, y cherchant de la surprise ou du dégoût, voire de la terreur. Elle me l'a dit. Bien sûr qu'elle l'avait mis au courant. C'était une empoisonneuse dans l'âme. Elle voulait s'assurer que j'apparaisse comme la méchante de l'histoire et non l'inverse. À ceci près que cette fois, c'était la vérité. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ma sœur a beau être cruelle, elle se comporte rarement en idiote. Pourquoi risquerait-elle ta vie pour cette corvée? Je l'ai bien cherchée. J'ai interdiction d'en dire davantage, mais à notre arrivée en Crète, je crois que tu comprendras. Il hésita. Sais-tu si nous pouvons faire quoi que ce soit contre elle? S'il l'a. Au-dessus de nous, le soleil était en train de brûler les derniers restes de nuages. Malgré le dais, les hommes haletaient. Je ne sais pas. Je vais essayer. Nous restâmes debout en silence à côté de cette fille bondissante, tandis que la mer défilait.